Bonjour à tous, ceux à qui je n'avais pas encore dit bonjour. Et je rappelle que, comme d'habitude, je tiens à votre disposition les références que je vais utiliser pendant la prédication. Depuis il y a quelque temps, nous avons partagé ensemble un message sur l'Église et nous avons parlé des missions de l'Église. Je ne sais pas si vous vous souvenez des missions de l'Église. Est-ce que quelqu'un se souvient des missions que le Seigneur a confié à son Église?
L'évangélisation,
Oui.
la mission.
Oui, les missions.
Et
On en a vu deux, oui.
l'éducation.
Évangélisation, annonce de l'évangile et, donc ça c'est ce qu'on fait dehors.
Éducation.
Édification, on a parlé de formation des disciples. Donc dehors, nous devons annoncer l'évangile à ceux qui ne connaissent pas encore l'évangile. Et une fois que les gens ont accepté l'évangile, on les forme dans l'église locale. Voilà les deux missions que le Seigneur a confiées à son Église et nous avons parlé, nous avons développé l'aspect formation des disciples. J'avais dit que la partie annonce de l'Évangile, c'est tellement important que je préfère l'annoncer, enfin la développer après dans toute une série de messages. Et je rappelle donc cette grande mission pour nous, c'est vraiment la grande mission, hein, c'est l'annonce de l'Évangile que le Seigneur nous donne dans Marc chapitre 16. Verset 15. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Alors, on va se poser une question par rapport à cette grande mission. Est-ce qu'elle sera facile? Jésus nous prévient par rapport à ce qu'il nous demande. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, il dit, Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que ça ne va pas être simple. Nous allons être confrontés à des loups. Et Jésus n'a pas choisi le terme par hasard. Dans Jean chapitre 15, versets 18 et 19, il dit, Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc le Seigneur nous prévient que nous allons être haïs quand nous allons tenter d'annoncer l'évangile. Nous serons au milieu de loups, ça va pas être simple. Et on peut se poser la question, alors pourquoi une telle haine du monde vis-à-vis de l'évangile? Simplement parce que le monde est opposé à Jésus. Le monde n'est pas prêt à recevoir cette bonne nouvelle que Jésus nous a apportée. Et donc, pour pouvoir annoncer l'évangile au monde, il est important de comprendre le monde. Pour aborder la société, il est important de la comprendre pour mieux lui annoncer l'évangile. Et c'est l'objet de ce message ce matin. Nous allons voir pourquoi le monde ou la société est hostile à l'évangile. Avant de pouvoir lui annoncer l'évangile, il est bon de sonder le cœur des gens, de savoir ce qui se passe avant de pouvoir leur annoncer l'évangile. Il y a quelque chose de fondamental dans le monde, c'est la rébellion. Le cœur de l'homme étant rebelle, la société est rebelle, notamment rebelle contre Dieu. Et donc, le monde refuse de se soumettre à son créateur, tout simplement. C'est ça la rébellion. Alors, notre société, particulièrement occidentale, a trouvé une stratégie pour ne pas se soumettre à Dieu, c'est qu'elle refuse carrément son existence. La société nie carrément l'existence de Dieu. Parce que, si on reconnaît cette existence, on est forcé de se soumettre à son autorité. Donc, pour ne pas se soumettre, ben la stratégie la plus simple, c'est de dire que ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, j'ai pas à me soumettre. Et vous connaissez peut-être l'expression ni Dieu ni maître. Ce n'est pas du tout fortuit d'associer ces deux mots, Dieu et maître, parce que tout le monde sait que Dieu est maître. Donc si je refuse Dieu, je refuse le maître. Donc je refuse de me soumettre. C'est pour ça que j'en dis ni Dieu ni maître. Parce que je ne veux pas de maître. Donc je ne veux pas de Dieu. Donc c'est ça le vrai problème. Et la Bible dit que c'est une pure folie que de dire que Dieu n'existe pas. Le psaume 14 nous dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. C'est une folie de dire que Dieu n'existe pas. Et la Bible dit que c'est être insensé. Moi, j'aime parfois donner des exemples à des gens qui me disent que Dieu n'existe pas. Je leur dis simplement, imaginez que la Terre est un vaisseau spatial qui navigue dans l'espace et qui est à la dérive. Nous voyons que, de toute façon, le vaisseau est à la dérive. Et là, les gens disent, alors, bon, je leur conseille alors de se référer au manuel du vaisseau pour redresser le vaisseau. On va peut-être regarder un peu le manuel qui dit comment il faut faire. Donc pour ça, il faut se référer au constructeur du vaisseau. Mais si on dit que il y a pas de constructeur, on est bien mal parce qu'on ne sait pas comment faire. Et on est bien à la dérive. C'est ce que je dis souvent aux gens. Mais si vous dites que ça ne va pas et que vous refusez de regarder le manuel, parfois je parle même de la voiture. Je dis mais quand vous avez des problèmes avec votre voiture, pour savoir à quoi servent les boutons, à un moment donné, il faut bien regarder le manuel. Vous devez vous référer au constructeur de la voiture pour savoir comment l'utiliser. Donc c'est purement de la folie que de dire je suis dans un vaisseau, mais je ne veux pas regarder le manuel du constructeur. Et c'est ce que les hommes sont en train de faire. Et l'argument qu'on avance aujourd'hui par rapport à ça, c'est la science. On dit que la science nous démontre que Dieu n'existe pas. Alors on fait une confiance aveugle aujourd'hui à la science. La science est devenue quelque chose, mais les gens disent, ah ouais, avec la science, on a tout ce qu'il nous faut, on est totalement, la science va résoudre tous nos problèmes, on n'a pas besoin de Dieu, parce qu'on est capable de construire des avions, on est capable de construire des voitures, des ordinateurs, des vaisseaux spatiaux d'ailleurs, hein, qui peuvent aller dans l'espace. La médecine aujourd'hui peut guérir beaucoup de maladies, peut arranger la vie. On a Internet, c'est quelque chose d'extraordinaire, Internet. On dit, voilà, ça c'est la science qui nous l'a donné. Point besoin de Dieu. Et cette science qui est devenue en fait une nouvelle religion. Les gens sont devenus, il y a même le terme qui existe, scientifique. On adore la science parce qu'elle peut tout nous apporter, on n'a plus besoin de Dieu. Et la Bible dit que notre sagesse, la sagesse humaine qui nous permet de faire toutes ces choses avec la science, dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, il est écrit « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. » Les raisonnements que les hommes font par rapport à la science, par exemple, Dieu dit que c'est une pure folie. Et si on parle de science, quand je dis que la science est une religion, les religions ont des prêtres, en général. Les religions païennes ont des prêtres. Et on a aujourd'hui des prêtres, ce sont les scientifiques qui sont les prêtres de cette nouvelle religion, qui souvent les invitent à la télé et ils nous disent, vous remarquerez souvent quand on invite des gens à la télé, notamment les scientifiques, ils commencent, à un moment donné toujours, ils disent, vous savez, moi je suis athée. Donc ils rappellent le credo essentiel, Dieu n'existe pas, je n'y crois pas. Et donc ces prêtres-là sont souvent maintenant, c'est à eux qu'on fait confiance. On a même des prophètes, évidemment, qui prédisent l'avenir, c'est des météorologues. La météo est quelque chose de... Les gens sont accrochés à la météo d'une façon parfois irrationnelle. Parce qu'au moins, il y a des scientifiques qui peuvent leur prédire l'avenir. Je ne dis pas que c'est faux. La météo peut dire des choses intéressantes, mais parfois, les gens oublient que ce n'est pas une science exacte. Mais pourtant, on s'y accroche. Parce qu'on a besoin de prophètes qui annoncent l'avenir. On a aussi l'hôtel. L'hôtel, c'est la télévision. La télévision est l'hôtel de cette nouvelle religion où on déverse toute la violence, le sexe, et puis notamment la magie. Vous allez voir, il y a de plus en plus de séries sur la magie, la sorcellerie, tout ça, ce sont les ingrédients qu'on déverse sur l'autel. Et on dit que la science aurait tué Dieu. Dieu n'existe plus parce que c'est la science qui l'a tué. Et que les scientifiques seraient contre la science. Enfin, pardon. Seraient contre Dieu. Et j'ai été interpellé tout à l'heure quand on a parlé de Einstein. Parce que j'avais l'intention de parler de lui ce matin et on a parlé, déjà, j'ai trouvé que le Saint-Esprit a inspiré les choses pour qu'on en parle avant que je commence mon message. Parce qu'en fait, il y a une histoire qui est attribuée à Einstein quand il était jeune. C'est un professeur de physique qui dit à ses élèves, « Vous nous dites que Dieu existe, mais moi je vais vous démontrer qu'il n'existe pas, ou que tout ce que vous dites n'est pas cohérent. » Donc il dit, « Vous dites qu'il est tout puissant, donc il a tout créé. » Les élèves disent, « Oui, c'est tout à fait ça. Il a créé tout ce qui existe dans le monde. » Oui, les élèves disent, « Oui, bien sûr, puisqu'il est tout puissant. » Alors, « Vous reconnaissez que le mal est dans le monde. » Ok, ça commence à se corser. « Donc, votre Dieu a créé le mal. Mais vous me dites aussi que Dieu est amour. Comment a-t-il pu créer le mal s'il est amour ?» Et là, les élèves sont mal. Sauf un. Et on dit que c'était Einstein. Il dit, monsieur, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que vous nous avez appris que l'obscurité n'existe pas en science. Tout ce qui existe, c'est la lumière. Et l'obscurité n'est que l'absence de lumière. Les scientifiques peuvent étudier la lumière, la longueur d'onde, l'énergie, tout ce qu'on veut de la lumière, ça s'étudie, mais on ne peut rien faire avec l'obscurité parce qu'elle n'existe pas scientifiquement. Ah, le prof dit, oui, je vous ai appris ça. Il lui dit, vous nous avez appris aussi que le froid n'existe pas. Que ce qui existe, c'est la chaleur, qui est une énergie dont on peut calculer des données scientifiques, mais le froid, ça n'existe pas. Ce n'est que l'absence de chaleur. Ah, le prof dit, oui, je vous ai appris ça. Bah, monsieur, le mal n'existe pas. Le mal que vous dites que Dieu a inventé, Dieu a créé, n'existe pas. Le mal n'est que l'absence de Dieu. Et là, le prof était confus. Alors, je dis que on attribue cette histoire à Einstein, mais je n'ai pas pu vérifier son authenticité. Mais toujours est-il que Einstein était un croyant. Et je vais vous donner une de ses citations d'ailleurs. Il dit ceci. Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur et illimité qui se révèle jusque dans les moindres détails de nos esprits fragiles. Enfin, je reprends. Ma religion consiste en une humble admiration de l'esprit supérieur et illimité qui se révèle jusque dans les moindres détails que nos esprits fragiles sont à même de percevoir. La profonde conviction émotionnelle de la présence d'un pouvoir supérieur raisonnable qui se révèle dans l'incompréhensible univers forme mon idée de Dieu. Einstein considérait que le monde ne pouvait pas exister sans un esprit intelligent, puissant, voilà. Et ça, c'est authentique, cette citation. D'ailleurs, cette citation, je vais vous raconter une petite histoire par rapport à cette citation où je l'ai trouvée. Et ce que j'en ai fait, c'est que, en fait, j'ai fait une thèse de doctorat en physique. Et un jour, mon directeur de thèse m'a dit, Eric, je ne te comprends pas. T'es quand même intelligent. Enfin, c'est lui qui le dit. Hein.
Je confirme.
Il dit, t'es quand même quelqu'un d'intelligent. Comment peux-tu croire à ces histoires de Dieu? Je ne te comprends pas. Et je ne lui ai pas répondu. En guise de réponse, j'ai mis dans mon bureau un poster. Et sur ce poster, il y avait cette citation d'Einstein et d'autres citations de très grands physiciens, des prix Nobel, qui disaient leur conviction par rapport à leur foi en Dieu. Et un jour, mon directeur de thèse se pointe dans mon bureau et il trouve le poster, il s'arrête et il commence à le lire. Je vois qu'il devenait de plus en plus pâle. Il lit jusqu'en bas. Et j'ai vu qu'il était terriblement troublé. Parce que les scientifiques qu'il a vus sur le poster étaient sans doute ceux qu'il adorait. Ceux qui étaient il était convaincu que ces gens-là ne croyaient pas en Dieu. Et là, il découvre, waouh, mes idoles croient en Dieu. Et il m'a dit, je ne suis pas convaincu, mais je l'ai vu complètement troublé. Il est sorti de mon bureau, il m'a plus rien dit, et il est sorti. Et donc, on nous dit souvent que les scientifiques ne croient pas en Dieu. Je trouve qu'il y a une certaine malhonnêteté intellectuelle. On dit souvent que Albert Einstein est le plus grand physicien du XXe siècle. On le cite, on est fier de dire, voilà, il est, mais on oublie de dire qu'il croyait en Dieu. Et je trouve que c'est une malhonnêteté. Il faut dire les choses, complètement. Je dirais même plus que les vrais scientifiques disent qu'on est croyant parce qu'on est scientifique. Plus on est scientifique, plus on est croyant. Et il y a quelqu'un que tout le monde connaît, c'est Louis Pasteur, qui est aussi très admiré comme grand scientifique en France, chimiste et physicien de formation d'ailleurs. Il a été le pionnier de la microbiologie, et il a dit ceci, un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup y ramène. C'est ça, il dit, un vrai scientifique, plus moins on a de science, plus on dit que Dieu n'existe pas, mais plus on a de science, là on commence à croire en lui. Et quand on nous fait croire que la science nous permet de dire que Dieu n'existe pas, c'est totalement aberrant. Si on entend les vrais scientifiques. J'ai pris quelques exemples. Je vais prendre un certain Jean-Henri Fabre, qui était un célèbre naturaliste, entomologiste éminent. Il est considéré comme l'un des précurseurs de l'éthologie. Enfin, il y a des termes qui sont tellement que je ne comprends pas moi-même. Enfin, l'éthologie, c'est la science du comportement animal. Il était aussi éco-physiologiste. Il avait tellement de titres. Et il a dit ceci. En fait, un jour, on lui pose une question. Voilà. On lui demande, croyez-vous en Dieu? Il dit, je ne puis pas dire que je crois en Dieu. Je le vois. Sans lui, je ne comprends rien. Sans lui, tout est ténèbres. Non seulement j'ai conservé cette conviction, mais je l'ai aggravée ou améliorée, comme vous voudrez. Toute époque a des lubies, ou a ses lubies. Je considère l'athéisme comme une lubie. C'est une maladie du temps présent. On m'arracherait plutôt la peau que la croyance en Dieu. Voilà, ça c'est un scientifique qui parle. Et il y a aussi quelqu'un qui est bien connu, qui a inventé l'insuline. Il a découvert l'insuline qui permet aujourd'hui à des millions de diabétiques de vivre. C'était Nicolae Popescu. Il dit, le scientifique ne dit pas simplement « je crois en Dieu », mais il doit affirmer clairement « je sais que Dieu existe ». Voilà, ça c'est des paroles de scientifiques. Et il y a aussi une histoire qui est attribuée à un autre scientifique dont je n'ai pas pu vérifier l'authenticité, mais l'histoire est intéressante. Il s'agit d'un mathématicien, physicien, astronome éminent anglais, Isaac Newton. C'est une figure emblématique des sciences. Il est surtout reconnu pour avoir fondé la mécanique classique. Aujourd'hui, toute la mécanique classique est basée sur les travaux de Newton. Et surtout, sa théorie de la gravitation. Cette théorie de la gravitation universelle qui nous permet aujourd'hui de comprendre pourquoi les objets tombent, etc. Et qui permet aujourd'hui aussi de lancer des fusées. Sans lui, on ne pouvait pas lancer des fusées pour faire les calculs. Et en fait, on dit qu'il avait commandé à un mécanicien habile de fabriquer une maquette du système solaire. Et donc les planètes étaient représentées par des boules qui se mouvaient en même temps autour avec une courroie qui permettait aux boules de tourner autour d'un noyau qui représentait le Soleil. Un jour, un de ses amis qui se disait matérialiste, qui ne croyait pas en Dieu, il vient voir Newton et en entrant, il regarde, il est attiré par cette maquette qu'il trouve absolument fantastique. Et donc, il voit cette perfection qui se dégageait de la maquette. Et donc, il déclenche le mouvement. Et puis, il voit les planètes qui tournent autour de la boule centrale. Wow ! Il était impressionné. Il dit donc à Newton, mais ce parfait travail-là, qui l'a fabriqué ? Bah, Newton le dit, personne. Il est venu là tout seul. Enfin, par hasard. Le savant matérialiste lui dit, « Monsieur Newton, je crois que je ne me suis pas bien fait comprendre. » Je vous ai posé une question, c'est qui est l'auteur de cette maquette et qui en a fourni les plans? Newton dit, non, mais j'ai parfaitement entendu votre question, mais c'est en réponse à cette question que je vous ai dit que personne n'était l'auteur de ce que vous voyez là. Elle est venue d'elle-même ici, dans mon bureau. Ces atomes et ces molécules se sont, donc il parle aussi de ce qu'il y a dans les boules, il dit ces atomes et ces molécules se sont rassemblés ici, ils ont pris par hasard la forme qui en est que vous voyez devant vous. Alors l'autre avala sa salive et dit, mais monsieur Newton, vous vous imaginez peut-être que je suis assez sot pour que j'attribue au hasard la fabrication d'une œuvre qui ne peut être conçue que par un maître. Newton s'approchait alors de son ami, le prit par l'épaule et lui dit, cher ami, ce que vous voyez et dont vous cherchez à connaître le fabricant n'est rien d'autre qu'une maquette. Une maquette qui est l'imitation du système solaire réel, réel. Cependant, vous n'êtes pas prêt à admettre que cette maquette ne doit son existence qu'à elle-même, qu'elle ne la doit pas à un habile artisan, un savant, je dirais, et qui est bien sûr conscient de ses gestes pour pouvoir fabriquer tout ça. Pourquoi alors persistez-vous à croire que le système solaire, le vrai, avec toute sa complexité, son énormité et son étendue n'aient pas été faits par un créateur puissant et savant? Et donc son ami était confus aussi, et il demeura silencieux. Il n'a pas pu rajouter de mots. Donc je disais que cette histoire aussi, on l'attribue à Isaac Newton. Mais il avait une vraie croyance en Dieu, authentique Newton. Voici une de ses citations. En parlant du système solaire, il dit « Ce système solaire, ce système du soleil, des planètes et des comètes, n'a pu procéder que par la volonté et la puissance d'un être intelligent. Cet être régit toutes choses, et non comme une sorte d'âme du monde, comme parce que maintenant on dit que Dieu est une âme du monde, il est dans le monde, on appelle ça les... J'ai oublié le terme. Plus que... Non, il y a... Non, non, maintenant on croit à une énergie là qui est dans le monde. Bon, enfin bref. Il dit que c'est pas du tout ça. Newton dit non, c'est pas une âme du monde. Mais comme il dit, c'est un maître au-dessus du monde. Il est au-dessus de tout. Et c'est à cause de son pouvoir qu'il veut qu'on l'appelle Seigneur Dieu. Ou celui qui règne, qui règle tout. Voilà ce que Dieu veut qu'on l'appelle comme ça. Le Dieu suprême est un être éternel, infini, parfait en tout point. Ça, c'était l'avis d'Isaac Newton, le grand scientifique, le grand physicien. Et j'aimerais terminer par un astronome aussi, un astronome français, Camille Flammarion. Il dit, si un jour on nous demandait quel est l'homme qui se ment le plus à lui-même, nous dirions sans aucune hésitation, c'est l'athée. Pour lui, dire que Dieu n'existe pas, c'est se mentir à soi-même. Parce que pour lui, tout le monde sait que Dieu existe. Donc quand on dit qu'il n'existe pas, c'est qu'on se ment à soi-même. Ça, c'est un scientifique qui le dit. Alors, d'ailleurs, on le remarque, hein, beaucoup de nos contemporains disent qu'ils sont cartésiens, voilà, ils sont matérialistes. Mais en même temps, ils sont superstitieux. Souvent, je leur pose la question. Si vous n'êtes que matière, qu'il n'y a pas d'esprit, il n'y a rien d'autre qui existe, mais pourquoi refusez-vous de passer sous une échelle ou de voir passer un chat noir parce que vous avez peur? Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent si vous dites qu'on n'est que matière. Voilà. Ou vous êtes cartésien, vous ne croyez qu'aux lois de la physique, tout ce qui est carré. D'accord? Non? Et quelqu'un a dit, et il y a d'ailleurs, ce qui est étonnant dans tout ça, c'est que les gens font confiance à l'astrologie. Il y a des gens qui se disent cartésiens, matérialistes, athées, mais le matin, ils ne sortent pas de chez eux sans avoir lu l'horoscope. Mais je leur pose la question, mais comment vous pouvez dire qu'il n'y a rien d'autre? On n'est que matière? Et vous croyez que, suivant la position des planètes, vous aurez de la chance ou pas? Et savez-vous ce qu'on appelle la première religion de France? Quelqu'un a dit ça. C'est l'occultisme. Parce que ce que les gens croient le plus en France, c'est ça. Les gens sont rendus, vous ne pouvez pas imaginer, chez les voyants, chez les astrologues, beaucoup plus que vous ne pouvez l'imaginer. Et en même temps, ils disent qu'ils sont cartésiens, ils sont matérialistes, ils ne croient pas du tout aux esprits. Mais ils vont consulter des voyants qui leur disent, qui consultent des esprits. Alors, c'est un peu... Donc les gens se mentent forcément à eux-mêmes. Ils savent qu'il y a quelque chose d'autre que la matière. Donc ils se mentent à eux-mêmes. Et il se trouve que les gens ont soif de Dieu, de toute façon. Dieu nous a créés avec une soif. Et ça se traduit souvent par le mot spiritualité. Ils disent, ils ont soif de spiritualité. Et c'est vrai, les gens ont besoin de Dieu, de cette relation avec l'esprit supérieur, qui est notre Dieu. Et donc, il parle de spiritualité. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous avez remarqué que le bouddhisme a beaucoup de succès. Pourquoi? À une époque, je suis passé dans le bouddhisme. Et ce que j'ai découvert, c'est que le bouddhisme dit qu'il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu suprême. Il y a une énergie bienveillante, cosmique, dans laquelle tout le monde doit tendre. Quand on arrive dans le nirvana, en fait, c'est quand on s'est déchargé de tous les... on a bien lavé ses karmas, comme on dit, on s'est déchargé de ses désirs, de ses... Voilà, on est devenu pur, et hop, on entre dans cet esprit. Donc, c'est comme un dieu, mais auquel on n'a pas de compte à rendre. C'est pour ça que ça marche. Parce qu'on a de la spiritualité, mais il n'y a pas de dieu auquel on doit rendre un compte. Puisque les gens ne veulent pas rendre de compte à un dieu, à un maître, hop, le bouddhisme marche à fond. Voilà, ça marche très bien. Moi, je vois au travail parfois, sur le bureau de mes collègues, des petites images du Dalai Lama, des choses. Ça marche très bien. Parce que justement, ça remplit, enfin, une certaine soif, ça répond à une soif de spiritualité, mais sans le Dieu auquel on doit rendre compte. Donc ça marche très bien actuellement dans notre monde occidental. Toujours par rapport à ce refus de soumission au Dieu auquel on doit rendre compte. Alors plusieurs se disent athées, d'autres ont même un autre mot, c'est agnostique. Agnostique, qui ne sait pas. Ils n'ont pas la connaissance. Alors ils disent, je ne sais pas si Dieu existe, je ne sais pas s'il n'existe pas. Ça c'est trop fort. Voilà. Je ne nie pas son existence, mais je ne sais pas, donc je n'ai pas à me soumettre non plus. C'est pareil, mais je ne suis pas athée. Voilà. Mais ça revient au même. Donc, c'est une subtilité de langage qui permet de... Ah ouais, moi, je ne suis pas athée. Hein. Je ne sais pas, je suis agnostique. D'accord. Alors, et pourtant, les gens ont la conscience de Dieu. Il n'y a rien à faire. Dieu a mis dans notre cœur le désir de l'éternité. Dans Ecclésiaste, chapitre 3, verset 11, dit « Dieu a mis dans le cœur des fils de l'homme la pensée de l'éternité. » Mais ça va plus loin que ça. Dieu a mis la pensée de l'éternel dans le cœur de tout homme. Si tu as été créé par Dieu, tu as cette pensée, tu veux vivre éternellement dans le bonheur parfait, dans la sainteté parfaite, parce que tu as la conscience de Dieu. C'est pour ça que tout le monde l'a. Et quand on dit qu'on est athée, c'est qu'on se ment à soi-même. On sait que ça existe. On sait que Dieu existe. Il n'y a ni athée, ni, pour moi, il n'y a ni athée, ni agnostique. Quand je vois quelqu'un qui se dit athée ou agnostique, puisque je sais que les gens croient, de toute façon, je pose juste une question. J'aborde une question qui les touche toujours, c'est la mort. Quand quelqu'un me dit qu'il est athée, je lui pose la question, quand tu mourras, où iras-tu? Je l'ai fait une fois avec quelqu'un, je me souviens, enfin, plus d'une personne d'ailleurs. Personne me dit, ah bah, quand je mourrai, je serai mangé par des vers, je serai enterré, je serai mangé par des vers. J'ai fait comme si j'avais pas entendu la réponse. Je lui dis, quand tu mourras, où iras-tu? Il me dit, mais je viens de te le dire. Je serai mangé par des vers dans... Je dis, non, quand tu mourras, où iras-tu? Et la personne s'énerve. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Je t'ai dit que je mourrai, enfin, je serai mangé par des vers. Je dis, mais pourquoi tu t'énerves? Et il me dit, arrête de me poser ces questions-là, on arrête, on parle d'autre chose. Parce que ça le gêne. Je touche au point sensible, la mort. Quand tu mourras, où iras-tu? Parce que tout le monde sait qu'après la mort, il y a quelque chose qui attend. Ils le savent. Mais ils se mentent à eux-mêmes. Et donc, à chaque fois que moi j'ai affaire à quelqu'un qui se dit athée, je ne lui parle que de la mort. À tous les coups, ça marche. Et d'ailleurs, les gens, même quand tu leur en parles pas, ceux qui se disent athées, lorsqu'ils sont proches de la mort, lorsqu'ils sont dans une maladie grave, hop, ils se souviennent qu'il y a quelqu'un. Pour moi, il n'y a pas d'athée. Tout le monde sait qu'il existe. Seulement, il faut aller creuser, faut aller chercher. Et surtout, en parlant de la mort, là, on se souvient qu'il y a quelque chose. Et on essaie, en fait, autant que possible, d'étouffer cette voix de Dieu en nous. Il y a une voix en nous qui nous rappelle l'existence de Dieu. Alors, qu'est-ce que les gens font? Ils font le maximum pour étouffer cette voix. Et donc, on essaie de se persuader du contraire. Quelqu'un a dit que les athées sont les gens les plus croyants. Parce qu'ils ont une évidence. L'existence de Dieu est une évidence. Quand les gens regardent l'univers, quand ils voient comment eux-mêmes ils fonctionnent, ils savent que Dieu existe. Je dis bien le terme, je ne dis pas qu'ils croient, ils savent que Dieu existe. Mais ils se persuadent qu'il n'existe pas. Donc il faut une foi terrible pour croire ce qui est évident. Enfin, pour croire le contraire de ce qui est évident. Voilà. Donc on essaie d'étouffer autant que possible la voix de Dieu qui est dans notre cœur. Et... d'ailleurs, vous remarquerez à quel point les gens détestent d'ailleurs de plus en plus le silence. Les gens n'arrivent plus à passer une minute en silence. Pourquoi? Parce que dès qu'on est en silence, la voix nous parle, qu'on appelle la voix de la conscience. Et les gens se disent, waouh, il faut mettre tout de suite de la musique, je mets quelque chose, mais cette voix, il faut que je la fasse taire. Ah oui, non, mais c'est pas possible. Vous allez remarquer que nos contemporains ne supportent plus le silence. C'est pour ça, parce que la voix rappelle qu'il y a quelque chose. Et donc, vu qu'on se ment à soi-même, qu'on se persuade du contraire, dès qu'il y a du silence, ah, mon petit ami, te souviens-tu de moi? Quand tu mourras, où iras-tu? Ah, je mets une musique pour étouffer cette voix-là. Allez, c'est bon. Alors, il y a, pour parler de, en fait, on a comme un vide qui est dans notre cœur. Je me suis récemment tourné vers un philosophe. Parce que ayant un peu l'esprit de, je dirais, un peu de contradiction, j'ai remarqué qu'on cite beaucoup de philosophes, que ce soit de l'Antiquité ou du 18e, on aime bien citer certains philosophes, Rousseau, on va citer Voltaire, on va citer des gens. Et il y en a un qu'on ne cite plus. Un seul. Alors je me dis, si on ne le cite pas, bah, je vais aller voir qui il est, enfin ce qu'il a dit. Et j'ai acheté ceci, les pensées de Pascal, le philosophe qu'on ne cite plus. Mais pourquoi on ne cite plus Pascal? Bah, j'ai découvert que c'est le seul qui a basé toute une pensée philosophique sur Dieu, mais non seulement sur Dieu, mais sur Jésus. Waouh, d'accord, on ne peut plus le citer celui-là. Et je me suis mis à le lire, et j'ai trouvé une pensée qui m'a plu, qui se trouve dans en fait, il n'avait même pas eu le temps de faire son livre, ça a été publié après sa mort, mais on a rassemblé donc les fragments il avait fait plein de fragments de pensées, et donc il y a un fragment qui a été numéroté 138 dans cette édition, où Pascal écrit ceci. Qu'est-ce donc qui crée cette avidité et cette impuissance, sinon qu'il y a eu autrefois dans l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui reste maintenant que la marque et la trace toute vide, et qu'il essaie inutilement de remplir de tout ce qui l'environne, recherchant des choses absentes, le secours qu'il n'obtient pas des présentes, mais qui sont toutes incapables, parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un objet infini et immuable, c'est-à-dire que par Dieu lui-même. Et j'ai trouvé cette pensée extraordinaire. Et je comprends mes contemporains à ce moment-là. Pourquoi les gens essayent de posséder de plus en plus? Parce qu'il y a un vide. Il faut le remplir. Donc on achète une grosse voiture, une grosse maison, une grosse télé. Maintenant, les télés, ça fait... même quand je fais ça, parfois, je ne fais pas la diagonale des télés aujourd'hui. Tout est de plus en plus grand. Et donc, on achète, on amasse. Et Pascal dit, mais non, vous n'allez pas le remplir, le vide. Vous avez beau y mettre tout ce que vous voulez. Parce que le vide, il est infini. Pour le remplir, il faut y mettre Dieu. C'est ça le problème de nos contemporains. Ils essaient de remplir un vide infini, avec du fini. Ça ne marchera pas. Et donc, ils sont en difficulté. C'est pour ça que les gens sont aussi matérialistes. On accumule. Parce qu'il y a un vide. Et Pascal avait pris des exemples de son époque, mais maintenant je parle de voitures, etc. Mais c'est la même chose. On est matérialiste, on veut remplir. Il nous faut toujours plus d'argent pour pouvoir remplir ce vide. Et l'argent est devenu d'ailleurs même un dieu. C'est le nouveau dieu. Et je pèse mes mots parce que Jésus a utilisé le mot quand il dit dans Matthieu 6, 24, « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Mammon, le dieu de la richesse. Il compare ce dieu, l'argent, la richesse, à un dieu. Donc les gens ont pris la richesse pour Dieu aujourd'hui. C'est Mammon, le dieu, ou l'argent qui est devenu le dieu de nos contemporains. Et on est tellement riche, on s'est tellement enrichi que on en est devenu orgueilleux. Mais Dieu nous met en garde. Dieu nous met en garde. Deutéronome chapitre 8, versets 12 à 14. Et j'aimerais lire aussi le verset 17. Lorsque tu mangeras et te rassasiras, lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi, prends garde que ton cœur ne s'enfle, et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Garde-toi de dire dans ton cœur, ma force et ma puissance, la puissance de ma main, m'ont acquis ces richesses. Or, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ce que fait notre société. On dit, voilà, c'est nous, c'est par notre puissance, par notre intelligence qu'on a accumulé tous ces biens. Et Dieu nous dit, attention, rappelez-vous que c'est moi qui donne. Mais notre société ne peut pas le reconnaître. Aujourd'hui, on ne parle que d'économie, de biens, d'économie, de croissance. Le mot revient tout le temps, croissance, il faut toujours que ça, les richesses croissent. Et on en veut plus, on ne parle que de finances, économie, finances, bourse. Il n'y a que ça qui compte. Gagner plus. On nous demande toujours gagner plus pour remplir ce vide, bien sûr. Mais on n'y arrive pas. Et on accumule les richesses. Et j'aimerais terminer par une question de Jésus dans Matthieu 16, verset 26. Et que servirait à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Et c'est cette question que nous sommes amenés à poser à notre monde autour de nous, quand nous annonçons l'Évangile. Ils accumulent, bien sûr. Ils ont beaucoup d'argent, d'accord. Mais à quoi ça sert de gagner tout ça si vous perdez votre âme pour l'éternité? C'est ça le but de l'évangélisation. Rappeler à notre monde que on a beau gagner tout ça, ce qui compte, c'est de sauver son âme. Et donc, ça sera l'objet de cette grande question que nous avons à poser au monde ou à la société qui est autour de nous, qui est hostile à l'Évangile. Cette question, nous allons l'aborder une prochaine fois. Surtout, nous poser la question dans le prochain message, savoir qui dans l'Église est censé poser cette question ou qui dans l'Église est censé annoncer l'Évangile autour de lui. Et aussi, comment? Nous allons aussi tenter de répondre à la question, comment annoncer l'Évangile? Comment interpeller nos proches de cette société hostile à l'Évangile? Et ce sera l'objet de notre prochain message. Et en attendant, que Dieu vous bénisse. Amen.
Amen.